et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous devions être cette semaine au Salon du Livre de Montréal, comme chaque année, pour une émission en public, public formidable du Québec, auquel je pense tout particulièrement aujourd'hui. Mais nous allons continuer à soutenir cet événement très important pour le monde du livre francophone, malgré le contexte. On a imaginé un programme à distance pour vous faire voyager quand même, où que vous soyez dans le monde. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Nous irons donc voir du côté de Montréal comment le Salon du Livre s'organise cette année avec le directeur général et avec l'auteur Dominique Fortier qui publie un essai sur Emily Dickinson, une poétesse américaine recluse, rêveuse et isolée qui a influencé de grands artistes de la chanson, un essai sélectionné pour le prix Renaudot en France. Nous serons aussi dans l'ambiance du Salon grâce à notre séquence 15 ans avec un souvenir d'émission. L'auteur inou Joséphine Bacon fait partie de ceux qui ont marqué le programme sur le site en public. Et puis nous irons dans la forêt des Laurentides avec Monique Proulx pour un reportage en pleine nature canadienne. Nous serons aussi avec Gérard Jugnot pour un livre qui revisite les grands contes de notre enfance. L'acteur a osé adapter des histoires cultes à la mode contemporaine. C'est très drôle et très réussi. Les libraires, bien sûr, sont avec nous, avec Sophie Todescato, qui représente la France, libraire à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes. Les libraires français qui souffrent beaucoup en ce moment. On commence donc avec vous, Sophie, et avec une petite histoire personnelle. Bonjour tout d'abord.
Bonjour Emmanuel. Oui, je vous donne des nouvelles du front.
Allez-y.
Alors la bonne nouvelle, c'est que malgré l'atmosphère générale, les clients continuent à vouloir offrir des livres et même à travers un plexi derrière nos fichus guichets de retrait, on adore conseiller. C'est toujours gratifiant et puis souvent c'est drôle parce que quelquefois les demandes sont farfelues. Alors par exemple, on a eu cette semaine un client qui voulait offrir un livre n'importe lequel à condition que la couverture soit violette. Alors donc on cherche, on trouve, ça c'est faisable. Ou bien plus bizarre et pour le coup vraiment difficile, celui qui voulait offrir le plus mauvais livre de la rentrée littéraire.
Ah,
le plus mauvais livre.
Pas mal.
Alors, c'est peu de le dire. Oui,
lequel
ça
fait... Lequel?
Alors, justement,
vous avez choisi lequel?
On n'a pas réussi à se mettre d'accord. On n'a pas réussi, ça a fait débat, on s'est quasi disputé avec Jean-Christophe et Jean-Jacques qui travaillent au Temps Moderne avec moi. Parce qu'en général, les cadeaux, on cherche quand même à faire plaisir, vous voyez, pas l'inverse.
Oui.
Et du coup, on n'a pas trouvé et le client est parti avec toute autre chose.
Vous aviez bien une petite idée quand même?
Ah non, je pourrais pas vous dire parce que vraiment on est parti très très loin dans des quasiment de la théorie.
Ouais, vous en sortez bien hein, Sophie hein.
Je suis
sûr que vous avez une idée mais vous n'osez pas, c'est pas bien.
Écoutez, la semaine prochaine.
D'accord. Attention hein, je vous prends au mot. Bon, merci d'être avec nous hein. Je rappelle que vous vendez des livres avec un guichet sur le pas de la porte. C'est la seule solution en ce moment. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe et vous représentez bien sûr la Belgique. Vous avez en tête le pire livre de la rentrée littéraire, vous ?
Ah, je le garde pour dans deux ou trois fois.
Non mais ça, il faut reporter tout ça comme ça. Je vous redemanderai, je vous promets. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose en Suisse.
Oui.
Rien d'autre à dire sur ce qui vient d'être dit ?
Pas grand chose. Je vous dirai pas non plus lequel est le...
Bon allez, j'arrête. Bonjour Katia Courtois.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire au Canada dans la librairie Le Port de Tête à Montréal. Merci d'être avec nous toutes les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de l'émission. Et on part au Salon du Livre de Montréal qui se déroule cette année dans plusieurs lieux de la ville de façon virtuelle. On vous explique tout avec Olivier Goujon, directeur général du Salon. Bonjour Olivier.
Bonjour Emmanuel.
La librairie francophone soutient le Salon du Livre de Montréal depuis toujours. Cette année, c'est très spécial. Vous vous êtes adapté. Comment avez-vous fait alors ?
Nous avons tout simplement voulu y croire. Nous avons tricoté et détricoté. Et puis finalement, je crois qu'on a réussi à la faire, cette belle écharpe du Salon du Livre, de façon complètement inattendue dans cette année suspendue. Le Salon a lieu malgré tout, mais oui, de façon 100% virtuelle. Cela dit, grâce à ce format-là, il faut le dire, on est capable d'aller rejoindre encore plus de public. Et même vous, Emmanuel, grâce à votre émission, vous êtes présent parce que vous l'avez été à chaque année et puis vous y réussissez à être présent. Alors merci.
Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Alors c'est vrai que vous êtes un des seuls salons à avoir résisté d'une certaine manière. Il fallait que le Salon du Livre de Montréal continue d'exister, même virtuellement. C'était important pour la chaîne du livre ?
C'était fondamental. La mission du salon, c'est de promouvoir les livres et la lecture, de promouvoir les artisans du milieu du livre. On est au service de l'industrie du livre, on est au service des lecteurs, on est au service des auteurs et des autrices. Notre mission, c'est de faire en sorte que le mois de novembre venu, on favorise, on crée une fête dans la ville et on favorise des conversations autour du livre et de la lecture, et à faire en sorte que justement, ces conversations aient lieu un peu partout. Et je crois qu'on y est parvenu. En tout cas, c'est la première journée aujourd'hui. Et même si c'est 100% virtuel, je sens une fébrilité parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont connectées et qui regardent des auteurs nous parler de leurs livres. Et ça, c'est une petite victoire.
Voilà, ce sont des auteurs qui sont dans des lieux filmés et qui peuvent communiquer finalement avec, avec les lecteurs. Vous êtes où en ce moment, Olivier?
Alors justement, je suis au Palais des Congrès de Montréal. Il n'y a pas de public. Jusqu'à la dernière minute, on aurait aimé avoir un peu de public, mais ce n'est pas possible dans le contexte actuel. Les auteurs et les autrices sont filmés par une équipe télé professionnelle. Alors moi, je suis ici, je regarde le centre-ville de Montréal en ce moment. Je vois les immeubles, je vois le pont Jacques-Cartier. Et puis je sais que, comme je disais, il y a des milliers d'écoliers qui regardent
en ce moment
les animations jeunesse en ce moment. Et puis donc d'avoir réussi à aller vers eux, à défaut de eux venir au salon. Dans le contexte, il faut voir ce qui est positif et ça, c'est important.
Voilà, qui peut donner des idées d'ailleurs aux autres salons dans d'autres pays du monde avec ces écoliers qui suivent depuis leur classe des rencontres et des événements qui sont organisés dans un lieu fermé et filmé. C'est une très bonne idée. Félicitations Olivier Goujon. Merci beaucoup Olivier.
Merci beaucoup et à très bientôt Emmanuel. On se reprend en personne très vite.
Oui, vive le Salon du Livre de Montréal. On espère être avec vous l'année prochaine. On se donne rendez-vous, Olivier.
Merci, au revoir.
Émilie, adieu dans sa maison, aurait trouvé un abri. Une fleur sauvage dans la main de la poésie. Seule église que son jardin s'interpromise, elle y retient le paradis. Émilie, Émilie, tournée vers le ciel, aussi pure, aussi essentielle qu'une neige tombée la nuit. Émilie.
Et on rejoint Dominique Fortier, qui est à Montréal, du côté d'Outremont, pour son livre « Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson », paru chez Grasset et en lice pour le prix Renaudot Essai. Bonjour Dominique Fortier.
Bonjour.
Emily Dickinson a inspiré de grands artistes de la chanson francophone, comme cet hommage de Johnny Hallyday en 2008. Mylène Farmer a composé elle aussi 6 titres en pensant à elle. Pourquoi était-elle autant admirée? Pourquoi est-elle encore autant admirée selon vous, Dominique Fortier?
C'est un personnage fascinant, Emily Dickinson, parce que elle a mené une vie tellement singulière, sans exemple, je pense, dans l'histoire de la littérature. C'est quelqu'un qui a décidé assez tôt de se retirer du monde et au fil des ans a cessé de sortir d'abord de son jardin et puis de sa maison pour finir son existence vraiment entre les quatre murs de sa chambre et pour autant sans sacrifier à sa liberté. Moi, il me semble que c'est une sorte d'exemple de vie parfaitement libre et parfaitement intègre. Donc, il y a ce personnage-là, puis il y a évidemment aussi son écriture.
Oui, alors, Emily Dickinson, née en 1830, fascinée dès l'enfance par la nature, la vie et la mort. C'est une enfant très particulière qui va concevoir son œuvre poétique pas à pas, principalement dans sa tête d'ailleurs. Pourtant, elle est issue d'une famille aisée, avec un père élu au Congrès des États-Unis et un grand-père sénateur.
Oui, elle vient au monde dans une famille qui est extrêmement bien établie à Amherst. En fait, les Dickinson, c'est vraiment une famille de notables et donc qui vient avec certains moyens. Mais quand même, la place qui était réservée aux femmes, même dans ces familles-là, n'était pas tout à fait la même que celle qui était réservée aux hommes.
Alors, il y a une anecdote avec son père que vous racontez dans le livre. Quand elle est enfant, alors qu'elle met la table, son père râle à cause d'une assiette.
Ouais. Elle pose devant lui une assiette ébréchée et lui, évidemment, est pas content. Et elle, pour régler la question, se saisit de l'assiette, sort dans le jardin et va la fracasser sur une pierre.
Ouais, c'est ça. Et elle lui dit, voilà, ça ne se produira plus jamais, je vous
ça
le promets.
Ça n'arrivera plus. Voilà.
Parce qu'il dit, à chaque fois, j'ai l'assiette ébréchée, elle va la casser, comme ça, c'est réglé. Alors, il la regarde médusée, paraît-il. Et là, ils se rendent compte de la personnalité d'Emily Dickinson dès l'enfance. Elle est rêveuse,
mais ce qui est fascinant. Oui, ben elle est rêveuse, puis en même temps, elle est habitée par une très grande force. Et c'est fascinant quand on lit sa correspondance, parce qu'on a la chance d'avoir des lettres d'elle qui datent du début de l'adolescence. On se rend compte qu'elle était déjà Emily Dickinson à 14 ans, à 15 ans, qu'elle était déjà habitée par le même feu puis la même fougue. Mmh. Et ça, c'est assez extraordinaire de penser que c'est pas quelque chose qui se développe au fil des ans, mais que c'est déjà présent.
C'était déjà là. Alors, lorsqu'elle sera punie par ses parents, elle saura s'évader par la pensée. Et arrivée à l'âge adulte, c'est comme si elle refusait de quitter l'enfance. À l'âge de 13 ans, elle refuse d'apprendre à lire l'heure parce que l'horloge du salon la terrifie. C'est vrai cette histoire?
Je sais pas si c'est parce que l'horloge la terrifiait ou si c'est plutôt parce que son père la terrifiait et qu'elle craignait de lui avouer qu'elle savait toujours pas lire l'heure. Mais oui, c'est vrai que très longtemps, elle a pas su comment dire l'heure. Ouais. Et c'est ça quelque chose de fascinant parce que c'est quelqu'un d'une intelligence absolument brillante. Ouais. Mais dans ce refus-là, déjà, il y a quelque chose comme une sorte de refus des conventions qui est très parlant, je trouve.
Assez sombre comme personnage, trituré, elle a donc influencé de grands artistes de la chanson francophone à l'image de Mylène Farmer. Mylène Farmer, inspirée par Emily Dickinson, dans plusieurs chansons, dont celle-là, J'attends. Qu'est-ce qu'elle attend, Emily Dickinson, Dominique Fortier?
Ah, c'est la question que tout le monde se pose. La plupart de ses biographes ont essayé de lui découvrir ou même de lui inventer des amours cachés, illicites, impossibles, avec des hommes, avec des femmes. On ne sait pas trop ce qu'elle attend. Mmh. Moi, j'en suis venue à penser, en fait, que... elle attendait rien, que ce qu'elle attendait était déjà en elle, que c'était quelqu'un qui, pour vivre, avait besoin de très, très peu de choses du monde extérieur et que vraiment la seule chose qui lui importait véritablement, c'était l'écriture. Qu'elle vivait pas un grand amour malheureux, c'était pas pour ça qu'elle était recluse. Elle s'était simplement repliée parce qu'elle avait besoin de ce silence-là, de cette attention au monde pour réaliser son œuvre.
Il y a deux libraires. Qui nous attendent, oui. Dominique Fortier, deux libraires nous attendent. Ils ont lu votre essai avec cette grande poétesse américaine. La France avec Sophie Todescato, tout de suite. Qu'avez-vous pensé de cet ouvrage, Sophie?
Ah, j'ai trouvé que c'était très merveilleux. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, ce sont les lieux. Parce qu'ils ont autant de présence, autant d'intensité que les personnages. Et ils sont décrits à la fois dans le détail, dans la sensation, les odeurs, les couleurs. Chaque objet est posé avec une simplicité, une précision qui crée vraiment une atmosphère. Et c'est comme si on habitait nous aussi cette maison aux côtés d'Emily Dickinson.
Exactement. La Belgique avec Nathalie Clairin. Êtes-vous d'accord?
Ah, entièrement. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'angle d'attaque de cette biographie. Souveraine beauté de la nature, la sensualité et la puissance de l'écriture comme échappatoire. Alors j'ai beaucoup aimé, Dominique Fortier, la façon dont votre propre vie entre dans ce roman, comme pour tenir compagnie à cette héroïne qui du coup est très seule. Et vous nous rappelez qu'avec 150 ans d'écart, on peut également connaître des lieux où on ne vit pas pleinement, des lieux de papier, comme vous les appelez, et cela conforte la vie d'Émilie. Vraiment, c'est un livre brillant qui touche à l'essentiel de nos vies.
C'est vrai, Dominique Fortier, que vous vous glissez comme ça dans la vie d'Emily Dickinson. Elle entend des voix, par exemple, Emily Dickinson. Elle ressent des présences. Et vous confiez dans ce livre ressentir ces choses-là également.
Dit comme ça, ça a l'air un petit peu inquiétant.
Oui. Ça m'inquiète, cela dit. Hein.
C'est vrai que moi, je me suis imaginée que Émilie, elle devait avoir depuis très tôt la conscience ou la préscience de sa mort. Et que donc, cette présence-là qui l'accompagne, c'est la certitude presque à tous les instants de sa vie que la vie est courte et qu'elle va prendre fin bientôt. Et puis c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai un peu l'impression que les lieux sont habités, pas uniquement par les gens qui y vivent, mais par les gens qui y ont vécu.
1800 poèmes, 1800 seront écrits, composés par Emily Dickinson. Elle n'en publiera qu'une dizaine seulement?
Mais probablement moins, peut-être trois ou quatre. Et en fait, c'est pas elle qui les a publiés. Ils ont été publiés probablement à son insu. Enfin, peut-être avec son assentiment, mais c'est vraiment pas elle qui a fait les démarches en vue de leur publication. Ils ont été publiés de façon anonyme. Et donc, elle voulait pas du tout, Émilie, être reconnue comme écrivain. Elle voulait écrire. Puis il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux choses.
Ouais, c'est vrai. Et les journaux qui la publient rectifient, corrigent même pour les adapter aux conventions de l'époque, ce qui ne va sans doute pas l'encourager à publier Emily Dickinson. Elle voyagera toute sa vie grâce aux livres, elle le dit. Elle restera comme ça à l'écart du monde, recluse dans sa maison de famille. Et elle est là, en fait, quand on lit votre livre, Dominique, on se dit qu'elle a oublié de grandir. Qu'elle ne peut pas supporter la vie d'adulte et que ce qui la peine le plus, au-delà des drames qu'elle va vivre, hein, parce qu'elle en vit des drames, c'est la perte de l'enfance.
C'est vrai qu'il y a quelque chose dans son personnage qui donne l'impression qu'elle est fixée dans le temps puis qu'elle demeure une enfant. Puis en même temps, en ne voyant que ça, j'ai l'impression qu'on la réduit un peu à quelque chose. C'est comme si le fait de refuser de s'engager dans le monde d'une manière très active ou très ouverte, ça signifiait, c'était synonyme d'une sorte d'infantilité. Puis je crois pas, je crois qu'elle avait simplement une manière différente d'être une adulte.
Morte à l'âge de 55 ans, hein, très jeune, comme si elle n'était pas faite, pas prête pour atteindre cet âge. Merci beaucoup, Dominique Fortier.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre, tiens, faites-moi rêver, depuis Montréal?
Je vois une enfilade d'érables avec un paquet d'écureuils qui se construisent des nids.
C'est vrai?
C'est la saison des nids d'écureuils. Oui, vraiment.
Génial. Bon, on a hâte de revenir parmi vous et d'être avec vous tous ensemble. Merci Dominique. Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson est parue chez Grasset. Un essai bien construit, aéré, très agréable à lire. Bonne chance pour le prix Renaudot Essai, Dominique.
Merci beaucoup.
Et bon salon du livre de Montréal virtuel. À suivre notre séquence autour des 15 ans de l'émission version grand format avec un extrait d'une émission sur le salon de Montréal avec Joséphine Bacon et un reportage dans la forêt des Laurentides en pleine nature. Et puis Gérard Jugnot pour un livre de contes décalé dans un instant. Avant cela, on écoute le chanteur québécois Antoine Corriveau qui connaît un grand succès en ce moment. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je ne reste jamais aussi longtemps qu'on m'aime.
C'était le chanteur québécois Antoine Corriveau avec Maladresse dans la librairie francophone, un titre très court mais très efficace. Alors que le Salon du Livre de Montréal est annulé, place Bonaventure, voici un souvenir avec le public de Montréal et la poétesse Inou Joséphine Bacon, interviewée par Dany Laferrière de l'Académie française. C'était le 15 novembre 2018, il y a tout juste 2 ans. Et bonjour Joséphine Bacon.
Oui.
Vous êtes une poétesse Inou invitée par Dany Laferrière aujourd'hui.
Ah, et je remercie pour cela. Et Joséphine Bacon, vous publiez Uyesh, ce qui veut dire quelque part en Inou, et c'est un recueil magnifique. J'ai été bouleversé par ce recueil. Et vous avez traduit en français des poèmes que vous avez écrits en Inou, ou vous avez traduit en Inou des poèmes que vous avez écrits en français. Est-ce qu'il y a 2 personnes dans un seul poème?
Non, ça dépend. Par exemple, dans Tsnostagna, battant un message, tu vois, ça parle de l'intérieur des terres. Et il fallait que je les écrive en Inouaïmoun d'abord. C'était très important pour, par la suite, essayer de raconter ce que je dis dans ma langue en français. Tandis que Uyesh, on retrouve des mots français dans le Inouaïmoun, parce que c'est des mots qui n'existent pas dans ma langue. Donc, on peut voir de cette façon quelle langue m'a guidée d'abord.
Vous parlez souvent de votre âge dans ce livre. Vous dites que vous êtes âgé, vous parlez de votre esprit, vous parlez de la lueur qui ne s'allume plus, vous parlez de votre fatigue. Est-ce que vous parlez de vous où vous parlez de la mémoire de votre peuple?
Je parle du temps et je parle de, même si les années passent, de ne pas perdre la mémoire.
Ouais. Et Joséphine Bacon, je connais votre nécessité de voir l'horizon. C'est très important pour le peuple Inou de voir au-delà des maisons et des immeubles. Et dans l'un de vos poèmes, vous écrivez « Je m'emprisonne dans une ville privée d'horizon ».
Ouais.
Pourquoi est-il si nécessaire cet horizon-là?
J'ai besoin de voir l'horizon pour me projeter le plus loin que je peux et non pas être arrêté à un mur où j'aurais l'impression d'être freiné.
Ouais.
Quand je regarde l'horizon, tu sais, ma vie continue avec elle.
Avec la terre, avec la nature
terre,
qui parsème
et puis,
le plutôt recueil.
Et les directions.
Tu sais, Et cette tradition orale aussi, ce nomadisme dont vous parlez, qui porte comme ça le respect de la nature. Vous dites vouloir fouler la toundra et honorer le caribou, comme
bien
vos ancêtres,
sûr.
Et vous déclarez être mouvement de la terre. Qu'est-ce que c'est être mouvement de la terre, Joséphine Bacon?
Être mouvement de la terre, c'est marcher la terre. Si tu marches la terre, c'est parce que tu marches avec ses vibrations et son battement.
Et on est nous-mêmes vibration, c'est ça?
On devient vibration. Et puis je sais que si je retournais par exemple dans le Mohuat, je suis sûr que Mohuat reconnaîtrait le son de mes pas.
Le son de vos pas. Et j'ai dit que votre recueil est nu. Tout à fait, parce que j'ai tout lu. Et vous n'avez jamais parlé d'un seul arbre, d'une seule feuille, d'une seule branche. Vous avez parlé de la lune, vous avez parlé de la rivière, vous avez parlé de l'eau. Pourquoi il y a pas un seul arbre, un seul brin d'herbe dans tout le recueil?
Parce que j'ai pas besoin de parler d'eux, parce qu'un m'habite.
Une dernière question, Joséphine, avant de vous laisser. Vous écrivez « Ma terre est bafouée par un serpent venimeux où coule mon histoire ». Quel est ce serpent venimeux? Qui est-il?
Le pipeline.
Le, pardon?
Le pipeline.
Ah, le pipeline.
Oui.
Pipeline.
Ouais.
C'est ça, oui.
C'est ça.
Eh oui. Merci beaucoup, Joséphine. Uyesh, quelque part, est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous pouvez applaudir, hein, Joséphine Bacon.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
On quitte le Salon du Livre de Montréal pour retrouver Gérard Jugnot qui est avec nous à distance. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors nous sommes à distance, comme je le disais. Où êtes-vous? Que voyez-vous à travers la fenêtre? Faites-nous un peu voyager, Gérard. Tiens, pour commencer.
Oh, écoutez, moi je travaille beaucoup dans le sud de la France. Là, il y a des nuages, mais ça va.
Ouais.
Il y a... Il y a des très beaux nuages, comme disait Baudelaire.
Bon, vous êtes dans les nuages, quoi.
Oui, oui, voilà. Bah, il vaut mieux en ce moment. Oui.
Bon, on va se détendre.
Il faut prendre un peu de distance.
Oui, on va se détendre, c'est le cas de le dire. On va se détendre un peu grâce à vous et raconter quelques histoires grâce à vos contes parus chez Flammarion. Vous revisitez les grandes histoires de notre enfance, de La Fontaine aux frères Grimm et aux figures de Disney, donc. Vous dites avoir écrit ça, je cite, avant le grand chambardement dans le monde d'avant.
Oui. Mais en fait, le grand chambardement est revenu. Donc là, j'ai fait une postface.
Ouais.
Il va falloir que je fasse une nouvelle postface et j'espère que ce sera la dernière. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quoi, en ce moment.
Alors c'est vrai que vous dites que vous auriez pu adapter les histoires. Le petit poussé n'aurait pas pu aller à plus d'un kilomètre de chez lui et ses gestes barrières auraient peut-être empêché de belles histoires d'amour. On pense à Cendrillon, par exemple.
Absolument. Et puis le petit prince qui était venu pour me serrer la pince, eh ben il pouvait pas. Ou alors avec du gel hydroalcoolique. Et le nain Hatchoum était mis au banc de la société. Non, il y a beaucoup de choses terribles comme la dame aux camélias qui toussait tout le temps. Elle était aussi extrêmement excommuniée.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, le rire, l'humour, c'est une manière de se libérer un peu de nos peurs. C'était sans doute pour ça d'ailleurs que les Grimm et compagnie Perrault ont écrit des contes affreux. Parce que c'était vraiment terrible ces contes. Quand je les ai relus, ouais. Les peurs d'enfance me sont revenues et je me suis amusé à revisiter tout ça avec un esprit tordu mais joyeux, j'espère.
Alors tordu mais joyeux, terrible aussi parfois parce que le petit poussé, vous l'imaginez dans votre histoire prendre un téléphone intelligent, comme on dit au Québec, pour se connecter à l'application Waze, histoire de retrouver son chemin. Et il va faire une rencontre malheureuse. Et là, on retrouve l'humour noir de Gérard Jugnot parce que la rencontre, c'est un certain Émile Louis.
Oui, oui,
c'est horrible.
Pour éviter les chutes. Oui, c'est horrible. Non, ça s'appelle de l'humour noir. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est pour éviter les chutes habituelles. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Parce que, d'abord, je suis pas sûr que ce soit souhaitable d'avoir beaucoup d'enfants dans ce monde surpeuplé. Et surtout, ce n'est qu'un début. Après, la vie continue et puis on sait comment elle termine la vie. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est une manière de jouer avec tout ça, de jouer avec nos peurs, de se soulager. C'est un soin, l'humour. C'est une thérapie.
Ouais, le lièvre et la tortue vont faire une course perturbée par les selfies, parce que le lièvre se prend en photo pour mettre sur Instagram, et par les gilets jaunes aussi qui font des barrages. Il y a aussi les trois petits cochons qui vont se faire bronzer la couane, dites-vous, en Thaïlande. Ça fait penser un peu au bronzé.
Oui, un peu ça.
Ouais.
J'ai essayé de les situer ailleurs. Ils ont échappé à l'élevage intensif et à la maltraitance animale. Et malheureusement, ils vont tomber sur un tsunami. Donc, ça n'arrangera pas leur affaire.
Le vrai tsunami qui a eu lieu d'ailleurs.
J'ai essayé de gratter là où ça fait mal, quoi.
Ouais. Ils fabriquent des maisons avec des déchets de notre quotidien.
Là où ça fait mal.
Il y a une tonalité écolo dans ces contes, car vous intégrez dès que possible, Gérard Jugnot, un petit message comme ça, autour de la protection de la planète, autour de l'écologie. Vous faites un peu plaisir.
Oui, mine de rien, je moque un petit peu de notre société, mais c'est vrai que je mets un peu le doigt, un peu cyniquement d'ailleurs, sur tout ce qui me fait peur, sur le réchauffement, sur cette pollution surtout, que je trouve en tant que cinéaste abominable, la pollution visuelle, la pollution du plastique dans les mers, tout ça, c'est terrible. Moi, dès que je peux, quand je me promène, je ramasse des masques, en plus avec ces masques terribles qui vont mettre des années, des siècles à disparaître.
Catastrophe.
C'est terrible. Si vous voulez, tout ça, c'est pas pour faire des grandes leçons. C'est juste c'est une manière de s'amuser, de rire avec tout ça et de lâcher un peu la pression qu'on a en ce moment.
En tout cas, vous faites un juste état du monde, hein, sans provocation. Il y a beaucoup de thèmes abordés, Gérard Jugnot. Vous racontez l'air de rien des choses profondes. Par exemple, la cigale qui va demander dans le sud de la France à la fourmi de venir se rafraîchir chez elle lors d'une canicule interminable. Elle en a marre de chanter, elle en peut plus de chaleur, la cigale, on voit très bien ça. C'est vrai que c'est exactement ce qui se passe. Bon, je sais pas si la cigale demande à la fourmi un service,
oui.
mais...
Absolument, oui. Et puis bon, je m'amuse à dire que le grand Michelot, on a marre de manger des grands-mères parce qu'il s'est cassé les dents sur des.
Oui, il est végétarien.
Titane et
ouais, il préfère les légumes.
Il devient vegan. Il devient vegan et malheureusement, il va se faire bouffer par le petit chapeau rouge et la grand-mère qui vont se régaler à faire un loup grillé.
Ça, c'est pas mal. C'est vrai que ça m'a fait rire. Bon, il y a deux libraires, Gérard Jugnot, qui ont lu votre livre. Deux libraires en Suisse et au Canada. On commence par qui, Gérard?
Oh, je sais pas, vous savez, moi j'aime beaucoup ces deux pays, mais je crains beaucoup le jugement des libraires, parce que c'est un petit... On a vraiment voulu avec Flammarion faire un joli petit bouquin de Noël.
Vous inquiétez pas.
Par le Père Noël, qui est une ordure, bien sûr, avec des jolis petits dessins, à faire un petit paquet de cadeaux, quoi.
Bon, allez, soyez courageux, Gérard.
Comme vous voulez, mettons le plus près.
Le plus près de vous, c'est la Suisse, hein, pour le coup, si vous êtes dans le sud de la France. Alors allons-y, en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, moi j'ai trouvé vraiment extrêmement drôle. Et puis étonnamment, on s'en lasse pas, on regrette plutôt que ce soit pas un très gros livre de contes. On s'en lasse pas parce que vous réussissez à vous renouveler dans la distorsion pour chaque conte et on est surpris à chaque fois. Et puis pour moi, franchement, le petit plus, c'est d'imaginer un parent négligent voulant faire un peu vite ses cadeaux de Noël en allant sur un site type Amazon, sans le conseil du libraire. Et là, j'aime mieux vous dire que ça risque de faire de l'ambiance sous le sapin. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas vraiment un livre pour enfants.
Je trouve qu'il y a pas. Je crois que bon, c'est vrai que c'est pas pour les enfants.
Oui, mais ça va.
Mais en même temps, il y a pas grand chose à part peut-être Barbe Bleue qui est un peu MeToo.
Oui.
À part ça,
avec une fille qui rêve de devenir star.
C'est des choses simplement affreuses. Oui, mais si vous voulez, ils étaient affreux ces contes. Le petit poussin, ses enfants qu'on abandonne dans la forêt parce qu'on peut plus les nourrir, c'est horrible.
Ouais.
Et l'ogre qui mettait les petits enfants dans le saloir pour les manger. Moi, ça me faisait très très peur. Donc, ce que je raconte, c'est les peurs de nos jours.
Mais
c'est pas les mêmes peurs, mais ce sont toujours les peurs. Je crois que les contes sont là pour apprendre, pour nous apprivoiser avec les peurs du monde.
Allez, on part au Canada tout de suite avec Katia Courteau. Avez-vous aimé ce livre de contes, signé Gérard Jugnot?
Oui, alors Gérard Jugnot, même si vous portez un regard acerbe sur la société actuelle, c'est vrai, votre recueil a l'avantage de se lire avec une certaine légèreté, évidemment grâce à votre humour noir. J'ai trouvé que c'est une lecture tout à fait d'à propos en ces temps difficiles, n'est-ce pas? Ceci dit, j'aurais peut-être comme Dominique apprécié encore un peu plus de chair autour de l'os, en prendre un peu plus... Peut-être aussi que le carcan des contes vous a confiné, en quelque sorte.
Oui, ça aurait pu être plus dense. Mais bon, c'est bien, les petits livres. Moi, j'aime bien, c'est chouette.
Oui, peut-être, mais je voulais pas non plus... Je voulais pas lasser, je voulais faire quelque chose de léger, un petit objet joli, comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Mouche Cosu, qui est une illustratrice, pour adoucir
un petit illustrations.
Peu, pour faire un petit livre de contes à l'ancienne.
C'est ça.
Et Flammarion, avec Sophie Berlin, nous ont beaucoup aidés pour ça.
Bon, alors, dans votre conte, Gérard Jugnot, dans l'un des contes, Cendrillon a un petit problème, elle pue des pieds.
Non.
Si.
Non. Si vous voulez, quand j'ai lu, c'est vrai aussi. Mais vous savez, quand on lit le vrai conte, c'est une souillon, elle doit faire beaucoup de sport sous ses bras, donc elle doit poquer un maximum, comme on dit maintenant. Et la fée, sa cousine, sa tante, ou sa marraine, la transforme, lui donne une belle robe.
Oui.
Sauf qu'elle aurait dû lui dire, prends une douche, ma chérie, avant de partir au bal. Ce qui fait qu'elle fait un peu le vide autour d'elle, et que quand le prince charmant va ramasser sa chaussure, évidemment, il va être un peu incommodé par ça. Mais, cela dit, ça arrange tout. Il est gay. Donc
oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez complètement déstructuré Cendrillon. C'est une catastrophe. C'est un traumatisme pour les enfants que nous étions. Parce que le prince est gay, donc il en a rien à faire de Cendrillon. Cendrillon pue des pieds, rentre chez elle et du coup, elle se retrouve sans personne. Et c'est vrai que le prince gay, c'est plutôt bien vu parce qu'à l'époque, on n'y avait pas pensé. Et je pense même qu'aujourd'hui, un conte avec un couple gay, c'est pas sûr que la société soit prête. Qu'en pensez-vous? Vous, Gérard Jugnot?
Je pense qu'il faut, ça commence à bouger, mais c'est vrai que cet humour permet peut-être justement d'accepter ces différences que moi personnellement, si vous voulez, très franchement, je trouve ça assez effarant, tous ces gens qui font des manifestations contre le mariage gay. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre, ces gens? Ils s'aiment, puis voilà. Moi je trouve qu'il y a peut-être que c'est mon grand âge qui fait que je deviens un petit peu loin de tout ça. Je trouve ça effarant de toutes ces ces haines, c'est comme malheureusement, bon, j'ai pas beaucoup abordé ça, mais toutes ces religions, tous ces intégrismes de tout poil, hein, que ce soit les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les juifs, tout ça, ça me fatigue énormément, tous ces gens qui s'entretuent pour une supposition, que je pense que, moi je suis d'accord que tout le monde croit, mais on n'est pas obligé de m'égorger si je crois pas. D'abord, si je crois pas, c'est que Dieu m'a pas créé croyant.
Ouais, oui.
Ben, voilà, quoi.
Pas mal, c'est bien vu.
Mais bon, c'est assez affreux tout ça.
Bon, merci beaucoup Gérard Jugnot d'être revenu dans la librairie francophone. On salue Philippe Claudel, vous vous souvenez, on avait fait une émission avec lui au Salon du Livre de Paris.
Absolument, absolument.
Vous vous rappelez ?
En plus, je lui ai envoyé le bouquin, il m'a envoyé un très gentil mot, comme quoi ça l'avait fait rire aussi. Donc je suis ravi.
Salut. Amical au grand Philippe Claudel qu'on aime beaucoup ici. C'est l'heure des contes, illustré par Mouche Cousue et paru chez Flammarion. À bientôt Gérard, faites attention à vous surtout. Hein.
Absolument. Et puis allez acheter des livres. Il hein. y a des tas de trucs, il n'y a pas que les géants de la distribution.
Bien sûr, chez les libraires indépendants, on milite pour ça ici, bien sûr. Merci Gérard, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et dans un instant, on vous emmène dans une forêt canadienne, dépaysement garanti, et on fait un détour par la grande bibliothèque de Montréal. Avant cela, voici la chanteuse Mesparo dans la librairie francophone.
Trop sensible, trop fragile, on me dit t'es trop lente. Toujours trop, pas assez, mais toujours différente. Trop têtue, langue pendue, on me dit fatigante. Trop timide, émotive, mais je me sens vivant. Trop frileuse, trop rêveuse, on me dit tu penses trop, t'aimes trop, t'en fais trop, tu veux tout de suite. Je suis trop, pas assez, mais toujours différent, et ça gêne les autres, mais je me sens. Marginale, mais j'ai choisi ma vie. Trop curieuse, trop heureuse, on me dit tout et tout son contraire. On me pousse, on me freine, moi je veux juste qu'on m'aime.
C'était Mesparo avec Différentes.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et dans cette nouvelle formule, chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part à travers la francophonie. Aujourd'hui, c'est le Québec qui est à l'honneur pour cette émission en soutien au Salon du Livre de Montréal. Bonjour Esther Laforce.
Bonjour.
Vous êtes bibliothécaire à la Grande Bibliothèque de Montréal, située dans le quartier Berry-UQAM, à côté du quartier des spectacles. Que voyez-vous, que peut-on voir par l'une des fenêtres de cette bibliothèque?
Oui, donc derrière la Grande Bibliothèque, on voit un jardin d'art dans lequel on retrouve depuis environ un mois une magnifique statue de Denis Laferrière.
Ah bon?
Et et devant la Grande Bibliothèque, en face, donc sur le boulevard Maisonneuve, on voit bien l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et sur le parvis même de la Grande Bibliothèque, eh bien, il y a des usagers Parce que il faut dire que malgré la pandémie et les mesures de restrictions sanitaires qui nous touchent aussi à Montréal, bien, il est toujours possible d'emprunter des documents en utilisant les services de réservation et de mise de côté au préalable.
Parfait. Bon, quel est le livre alors que vous avez lu récemment qui vous a fasciné ou passionné dans le rayon des classiques de la littérature, puisque c'est le principe de cette séquence, nous conseiller un grand classique?
Oui, alors c'est « Bonheur d'occasion » de Gabriel Roy, un roman qui a été publié d'abord en 1945 à Montréal, puis à Paris en 1947, où il a obtenu le prix Fémina. C'est quand même intéressant à souligner. Donc, le roman se passe en 1940 à Montréal. Et ça, c'est important parce que « Bonheur d'occasion », c'est un des premiers grands romans urbains de la littérature québécoise. Et sa force, et ce qui m'a peut-être le plus marqué personnellement, c'est le regard réaliste et empathique, je dirais, qu'il porte sur un quartier ouvrier francophone de Montréal, le quartier Saint-Henri. Donc, on y suit la famille Lacasse, une famille nombreuse qui vit dans la pauvreté et, pour ne pas dire, dans la misère. Plus particulièrement, on va suivre le destin de la fille aînée de la famille, Florentine Lacasse, qui va vouloir se sortir de cette misère en fréquentant un jeune ouvrier ambitieux. Mais bon, les choses vont se compliquer. Je vais laisser aux lecteurs et aux lectrices le soin de découvrir comment.
Oui.
Donc, pour terminer, je pense qu'on va lire ou relire avec intérêt Bonheur d'occasion aujourd'hui pour cette volonté forte exprimée par les personnages de sortir de la pauvreté et d'aspirer à un avenir meilleur.
Voilà, Gabriel Roy, retenez ce nom si vous ne le connaissez pas. Bonheur d'occasion, Gabriel Roy est une femme, hein, une autrice ou une écrivaine, ou une femme écrivain, vous dites ça comme vous voulez. Et Bonheur d'occasion, c'est paru en 1945 et un livre disponible donc en poche. Merci beaucoup Esther Laforce.
Merci à vous.
Merci à la Grande Bibliothèque de Montréal où on écoute aussi la librairie francophone, je suppose.
Oui, bien sûr, bon, avec grand bonheur.
Parfait. À bientôt, Esther. Pour les 15 ans de l'émission Reste au Canada avec notre séquence Souvenirs, un reportage pour vous faire voyager à distance. Cap sur la forêt des Laurentides en plein mois de novembre, dans les couleurs et le froid de l'automne, avec Monique Proulx, auteure du roman Champagne, paru chez Boréal et disponible aussi en poche. Voici un grand bol d'air pour vous. Je vous emmène en balade avec nous. Bonjour Monique Proulx.
Bonjour Emmanuel Quérade. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, de vous voir avec votre micro dans
Pourquoi?
La forêt avec moi. Parce que c'est un lieu de silence, comme je vous disais. J'en parle habituellement lorsque je suis à l'extérieur. Et là, soudain, j'ai l'impression que même les arbres m'écoutent en me disant « Qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas nous trahir! » Parce que c'est un lieu qui, pour moi, reste magique.
Alors cet endroit effectivement majestueux, les grands espaces canadiens que l'on ressent déjà ici, même si la forêt est très dense dans les Laurentides, on a juste en face de nous un lac illuminé par le soleil là en ce moment même, et vous dites que cet endroit c'est une sorte de paradis, Monique Proulx. Vous vous sentez dans une sorte d'intimité ici, comme vos personnages dans votre roman?
Je me sens face à moi-même, comme mes personnages. C'est pas toujours confortable, hein, ça dépend comment on se sent. Mais je pense que si on n'est pas capable de traverser cette première couche, qui est d'accéder à ce qu'on est sous le bavardage, je pense qu'on va pas très loin, non seulement à l'intérieur de nous, mais dans la vie, si on n'a pas accès à ça. Donc ici, je suis bien parce que je pense que finalement, je suis assez en copinage avec mes intérieurs, même s'ils sont, comme tous les autres, névrosés. On est tous un peu névrosés, on est tous même beaucoup névrosés, mais j'ai appris à transformer ça en matière, justement. Parce que l'espace que vous voyez à l'extérieur, là, ben, c'est l'espace qu'on a aussi à l'intérieur.
Alors parcourons ces espaces intérieurs, finalement, puisqu'on va discuter en même temps que nous allons marcher dans cette forêt. Quel côté? Ah oui, pardon, allons-y.
Nous éloigner, nous enfoncer davantage dans la sauvagerie, que vous soyez obligés d'enjamber comme on va le faire, là. Troncs d'arbres tombés. Parce que la forêt laurentienne, c'est sa particularité. C'est une forêt qui n'est pas du tout disciplinée. Hein? Lorsqu'on se promène en forêt en Europe, on a l'impression qu'un jardinier vient de couper les branches sans arrêt. Ici, c'est complètement laissé. La nature fait son boulot.
Est-ce qu'il vous arrive d'être cette forêt-là? Alors là, on est en contact parce qu'on y marche, mais est-ce qu'il vous arrive de vous arrêter, de vous poser à un endroit, d'être en contact direct avec les éléments et d'écrire?
Non, 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 ça serait comme une profanation. Je ne suis pas un écrivain quand je me promène dans la forêt. Je suis un être vivant en contact avec un organisme vivant et il y a une espèce d'osmose. Mais je fais ce que vous dites. Je m'assois par terre, je me baigne, je me fais sécher au soleil, je cueille des champignons, je regarde les oiseaux. Je fais tout ça, mais surtout pas en pensant à ce que je vais en tirer comme écriture.
Alors là, on s'enfonce. Il y a des petits ruisseaux, en fait, sur lesquels on marche. Tiens, on a une cabane, là. Prenez, Monique, on va dans la cabane.
Au Canada. Vous voulez une cabane au Canada? En voici une.
C'est pas une légende, en fait, la cabane au Canada.
C'est un peu, comment dire, c'est notre marque de commerce mythique dont on a vraiment voulu se débarrasser à un certain temps. On voulait surtout pas écrire à propos de la nature ou à propos de notre filiation familière avec justement la forêt. On avait marre d'être considérés comme des ploucs, des gens qui écrivent sur des feuilles d'écorce.
Alors, on peut rentrer d'ailleurs. Hein?
Ben,
allez-y.
Moi. Ça, écoutez, c'est une.
Elle est complètement ouverte.
Alors, nous sommes dans un.
Oula.
Nous sommes dans un.
Pas sûr qu'elle tienne le coup. Hein.
Non, on est dans la forêt, dans une espèce de. Une vraie cabane abandonnée qui a peut-être servi à des chasseurs à un moment donné. Quoique, c'est assez propre, ça m'étonne. J'ai pas une haute estime des chasseurs, pardonnez-moi. C'est pour ça que je
m'étonne. Non, car vous adorez les animaux et vous les protégez, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire que je les mange, hélas, parce que je suis pas cohérente parce que je suis pas végétarienne. Regardez comme c'est joli. Je suis pas complètement cohérente, mais au moins les animaux qu'on rencontre vivants dans la forêt, ben, j'aimerais ça qu'ils restent vivants. Mm-hmm. C'est ça. C'est que je me dis que c'est quand même un privilège d'arriver au détour d'un sentier face à un lièvre ou à un chevreuil. Alors, ouais. Pourquoi là, sortir son arme à feu puis tirer dessus alors que notre frigo regorge de victuailles? C'est ça. J'en ai contre ça. J'en ai contre cette espèce de sentiment que tout nous appartient. Nous avons droit de vie et de mort sur tout. Ça, je trouve ça insupportable, d'une arrogance qui va nous tuer d'ailleurs et qui commence à nous tuer.
Bon, sortons de cette cabane avant que le ciel nous tombe sur la tête. On arrive tout près du lac. Alors Monique Proulx, dans votre roman Champagne, il y a Lila qui a même besoin d'un contact charnel. Elle a besoin de nudité dans cette nature-là. Mais pour elle, ce n'est pas une histoire de sexualité. C'est plus que ça.
C'est-à-dire que Lila est un être complètement organique qui a comme aboli les distances entre l'extérieur et elle-même, ce qui fait qu'elle se sent parfaitement justifiée de se rouler dans la mousse. Bon, c'est quand même un être particulier. Je ne recommande pas aux gens de se rouler nu dans la mousse, mais je comprends très bien.
Mais vous le faites vous-même, non?
Non.
Êtes-vous sûr de ne pas aimer la nudité?
Écoutez,
dans la nature?
Je pense que la nudité dans la nature est très agréable, sauf que vous oubliez une chose. Dans les Laurentides, il y a énormément de mouches noires. Alors, la nudité est permise ou possible lorsqu'on va dans l'eau, lorsqu'on sort de l'eau. Mm. Mais comme Lila, là, c'est un personnage de roman quand même, je vous rappelle. Rester là sur les bords ou à se rouler dans les champs nus, c'est peu praticable en réalité. Mais l'image est très belle, l'image de cette non-frontière entre cette créature organique qu'est la nature et elle-même.
Et dans ce lac-là, quand il est dégelé, on se baigne nu, non? Dans les Laurentides.
On se baigne nu lorsqu'on n'a pas de voisins, parce que comme partout ailleurs, les gens sont extrêmement puritains. Ils aiment voir des gens nus à la télévision, mais pas à côté d'eux.
Vous pensez justement qu'on a perdu cette notion de nudité, ce besoin de nudité?
On a perdu le rapport avec le corps, un rapport sain avec le corps, ça c'est évident. Notre corps est trafiqué, habillé, maquillé, très peu aimé. On est toujours en train d'essayer de le transformer, de l'amincir, de le bourrer à d'autres endroits, le botox, tout ça. T'sais. On n'est pas du tout en paix avec notre corps. Quelqu'un, un individu sain, doit avoir un rapport sain avec son corps. C'est très lié. Hein. Tu ne peux pas être sain dans ta tête si tu n'as pas une espèce d'amitié profonde avec, je veux dire, ton support. C'est ton véhicule, là. Tu es pris avec ton corps. Mmh. Si tu ne l'aimes pas, tu es vraiment mal foutu.
Qu'est-ce que c'est la beauté, alors, pour vous?
La beauté, c'est la paix avec soi-même, c'est l'intégration aux autres, la beauté, c'est la non-résistance. C'est ça que vous voyez autour de vous. C'est le drame, vous savez, Emmanuel, la chose la plus simple que je peux dire à propos du malheur humain, c'est de se sentir isolé et à part des autres. La nature, ce pourquoi on se sent bien, c'est parce que c'est englobant. Je veux dire, quand l'être humain se sent faisant partie d'un tout, son drame s'estompe.
Merci Monique.
Merci Emmanuel.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Avec un coup de gueule tout de suite en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, ben alors voilà, c'est sûr que la situation des libraires et des éditeurs, elle n'est pas gaie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même, je vais faire un coup de gueule sur certaines éditions qui, bien sûr, continuent de promouvoir leurs livres auprès des libraires, c'est normal, mais est-il vraiment besoin de rajouter à l'argumentaire qui nous envoie tout un paragraphe intitulé « L'auteur Trucmuche aurait dû signer à » suivi d'une liste impressionnante de noms de librairies. Alors franchement, c'est déjà pas drôle de ne pas pouvoir organiser de dédicaces ou de lectures, à mon avis, mais c'est vraiment pas besoin d'en rajouter une couche.
Ah, parce qu'ils précisent les librairies où les auteurs auraient dû être.
Voilà, ils mettent les noms des librairies. Je ne trouve pas que ça apporte grand-chose, en fait.
Mais c'est stupide, disons les choses. C'est complètement stupide.
Bon. Et c'est énervant.
Ah oui, c'est énervant, je vous comprends. Bon, merci Dominique. Un coup de cœur dans le rayon des BD, je crois, Nathalie Clairin pour la Belgique.
Oui, Emmanuel, moi, c'est mon cœur qui bat, notamment pour de l'aventure en bande dessinée. C'est la maison belge d'édition Dargo qui a sorti le second tome des aventures de René Stone en Afrique. Ça s'appelle « Le piège de la mer rouge » de Julie Berman et du grand Clément Oubrory. Ah oui. Alors, les personnages, ils ne sortent pas de rien puisqu'ils tournent autour de l'histoire vraie et fabuleuse d'Agatha Christie. Eh bien, j'ai adoré ce récit d'aventure façon Indiana Jones. Ça nous emmène en Afrique dans les années 30. J'ai beaucoup aimé aussi le dessin parce qu'il est réaliste, son trait est nuancé. Bref, c'est un dépaysement assuré. Vous pouvez foncer sur cette BD.
Parfait. Une aventure de René Stone aux éditions Dargo. Merci beaucoup, Nathalie. Le Canada et le coup de cœur de Katia Courteau.
Oui, un coup de cœur au rayon poche. Alors, il s'agit du titre « Mère d'invention » de Clara Dupuis-Morancy aux éditions Alias. C'est d'abord une écriture que j'ai découvert. Mère d'invention, c'est un livre autour de la création, celle de l'enfant qui n'arrive pas à naître, et la création même aussi du récit. C'est vraiment un excellent roman à découvrir au format poche.
Mère d'invention de Clara Dupuis-Morancy. Merci beaucoup Katia. On termine avec une musique numéro un quelque part dans le monde. Voici Soraya Ramos avec un extrait de son titre « O Nosso Amor » numéro un en ce moment au Cap-Vert.
Quero te dizer, menos um solé. Só não admito que já estou.
Soraya Ramos, qui est numéro 1 en ce moment au Cap-Vert. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal et Stéphane Combe avec Guillaume Roux. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikkels avec Valérie Plut en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons avec l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, finaliste pour le prix Goncourt, et avec l'ancien président français François Hollande, qui publie un livre pour la jeunesse. Bon courage à tous et surtout, faites attention à vous. À bientôt, salut.